Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. C'était au temps de Hitler, ce peintre, ce caporal qui régnait sur 17 provinces, sur toute l'Allemagne. C'était au temps où ce barbare avait accédé au trône dans Berlin, la capitale. Il oublia les pots de peinture qu'il avait portés sur son épaule et la pauvreté, les vêtements en lambeaux et le pain de misère et les cours dans lesquels il avait dormi. Des âmes généreuses l'hébergèrent, des indigents le prirent en pitié, mais il n'apprit rien de leur compassion. Il devint cruel, engraissa et porta des coups comme un porc. Il oublia son cortège de soucis, les effaça de son cœur, pour se souvenir seulement de l'esprit de vindicte de ses ancêtres Aman et Amalek. Que son nom et leur nom soient maudits. Bonjour Georges Bensoussan.
Bonjour.
Je viens de lire le début de la Megillat Hitler, traduit pour la première fois en français dans la revue d'histoire de la Shoah numéro 205 d'octobre 2016. Vous dirigez la revue d'histoire de la Shoah, qui est donc une publication du CDJC. Et vous avez dirigé là un numéro tout à fait exceptionnel de cette revue qui s'intitule « Les Juifs d'Orient face au nazisme et à la Shoah, 1930-1945 ». Je rappelle bien sûr que vous êtes historien, spécialiste notamment de l'histoire de la Shoah. Je voulais lire ce texte donc, qui a été écrit en 42, donc par un juif de Casablanca, juif marocain, professeur d'hébreu, qui s'appelle, rappelez-moi son nom...
Racine.
Voilà, c'est ça, Prosper, c'était le nom
Racine,
français.
C'est ça, c'est Prosper ça. Racine.
Prosper Racine. Texte qui montre que... bien sûr, calqué sur la Megillat d'Esther, en 7 rouleaux également, qui raconte la victoire des Alliés contre l'Allemagne et l'Italie. Texte qui montre que les Juifs d'Orient n'ignoraient rien des persécutions antisémites ni de l'extermination des Juifs d'Europe. Et comme on va le voir avec vous, non seulement n'en ignoraient rien, mais eux-mêmes ont été victimes de persécutions, et heureusement pour une petite partie d'entre eux seulement, de l'extermination. Alors j'ai dit que ce numéro était exceptionnel parce que c'est la première fois qu'il est publié en France. Une telle synthèse de la situation des Juifs d'Orient qui s'appuie sur les dernières recherches historiques sur le sujet. Première question, trois questions en une. Qui sont les Juifs d'Orient? Pourquoi ce découpage temporel? Et puis, si vous pouvez nous dire un mot de votre collaboration avec l'Institut Ben Zvi en Israël.
Oui. Alors, ces Juifs d'Orient sont les Juifs de l'Orient arabe. D'ailleurs, le titre le précise, hein, dans le titre de la revue, c'est Juifs de l'Orient arabe. Donc, on a laissé de côté, pour des raisons de commodité de recherche, on a laissé de côté les Juifs de l'Orient musulman, non arabe, les Juifs d'Iran, encore qu'il y ait un article sur l'Iran, mais un seul, et les Juifs de Turquie, surtout. Bon. Ces Juifs d'Orient sont les Juifs qui vont donc du Maroc à l'Irak. Ils représentent environ en 1939 un million d'âmes, à peu près, dont la moitié vivent au Maghreb français, Maroc, Algérie, Tunisie, et la plus importante communauté de toutes celles du monde arabe est celle du Maroc, avec en gros 250 000, peut-être 280 000 personnes. La seconde, c'est la communauté d'Irak, à l'autre bout du monde arabe, avec 130 000 personnes. Alors, deuxième point, vous m'avez demandé les limites temporelles. C'est 1930-1945. 1930, c'est la montée du nazisme en Allemagne. Comment les Juifs de l'Orient arabe l'ont-ils vécu? D'abord, étaient-ils informés? Quel était le niveau d'information? Comment l'ont-ils vécu? Et après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, comment ont-ils réagi? Ensuite, 1939-1945, deuxième partie du volume, c'est la guerre. Comment ont-ils réagi à la défaite française en 40? Comment ont-ils réagi aux lois de Vichy, à la abrogation du décret Crémieux en Algérie, au fait que l'Italie, puissance coloniale en Libye, c'est une petite communauté, la communauté libyenne, il y a 35 000 âmes à peu près, bon, c'est à peine un quart de la communauté tunisienne par exemple. Comment ont-ils réagi au régime fasciste déjà depuis le début? Comment ont-ils réagi au fait que l'Italie est en guerre avec l'Axe et qu'ensuite les forces allemandes débarquent en Libye et qu'elles occupent non seulement la Libye mais la Tunisie, vous l'avez rappelé, entre fin 42 et le mois de mai 1943. Donc comment ces juifs de Libye et de Tunisie ont-ils vécu l'occupation allemande? Comment ensuite ceux d'Égypte et de Palestine ont-ils vécu la menace de l'avancée de Rommel vers eux? en 1942. Enfin, comment ceux d'Irak, en particulier, ont-ils vécu l'instauration d'un régime pro-nazi jusqu'en 1941, puis sa chute en 1941 dans des exactions sanglantes épouvantables, les pires probablement de celles du XXe siècle des Juifs du monde arabe, c'est le fameux pogrom du 1er et 2 juin 1941, qui est très peu connu en Occident.
C'est vrai, qu'on appelle le Faroud.
Le Faroud, voilà. C'est-à-dire
la destruction, d'accord.
Mais qui a fait l'objet d'une reconnaissance en Israël aujourd'hui.
Oui.
Les rescapés de ce pogrom sont reconnus comme survivants de la Shoah en Israël.
Oui. Voilà. Il a fallu beaucoup de temps.
Ça vient de cette année.
Cette année, oui.
Alors, par rapport à votre collaboration, justement, avec cet institut...
Alors oui, vous m'avez posé une troisième question, pardon. Oui. C'est l'Institut Ben Tzvi. En fait, ce numéro a été élaboré dès le début, il y a 6 ans déjà qu'on a travaillé sur ce numéro, avec l'Institut Ben Tzvi, en particulier avec Raïm Saadoun, qui est l'un des principaux membres de l'Institut Ben Tzvi, que j'avais rencontré au Maroc lors d'un séminaire du Mémorial de la Shoah. Et je lui ai proposé, un jour ou l'autre, de faire ensemble ce numéro sur l'histoire des Juifs du monde arabe, parce que les chercheurs israéliens sont nombreux sur le sujet, ils ne sont pas traduits en français, c'est l'occasion de faire connaître leurs travaux. C'est ce qui explique que dans ce numéro, pratiquement les 3/4 des articles sont des articles traduits de l'hébreu, chercheurs israéliens, le reste sont quelques articles de francophones, et un article de Norman Stillman, qui est le grand historien américain des Juifs du monde arabe, dont là aussi on peut regretter que les travaux ne soient pas traduits en français. Voilà comment s'est faite la collaboration avec Ben Tzvi. Elle est donc très étroite. Ce numéro doit beaucoup, beaucoup à Raïm Saadoun et à l'institut qui est à Jérusalem, que peu de gens connaissent.
Alors justement, vous pouvez nous en dire un mot, c'est un institut.
Alors, c'est un institut qui est situé à Jérusalem, qui s'appelle Ben Tzvi, tout simplement parce qu'il est situé dans l'ancienne maison du président Yitzhak Ben Tzvi, qui, il faut le savoir, d'origine ashkénaze, Ben Tzvi, était fasciné par l'histoire des Juifs d'Orient. Et il a consacré une bonne partie de sa vie à y travailler. Et il a décidé de transmettre sa maison à ce petit musée. Cette maison, qui est une maison très modeste, hein, Rehavia, le quartier l'un des plus beaux quartiers de Jérusalem, est devenu un musée qui a acquis ensuite d'autres parcelles de terrain, d'autres bâtiments, ce qui aujourd'hui est devenu un petit ensemble. C'est très modeste par rapport à Yad Vashem, ça n'a rien à voir. Mais ça reste quand même un petit quadrilatère de bâtiments avec une grande bibliothèque, un dépôt d'archives, des chercheurs qui viennent d'un certain nombre de pays, évidemment beaucoup de chercheurs israéliens qui y travaillent et qui organisent également des séminaires de formation. Voilà ce qu'on appelle Yad Ben Tzvi en Israël, à Jérusalem.
Et en France, donc les recherches sont moins avancées sur ce sujet.
Il y a très peu de chercheurs là-dessus. Très peu.
D'accord. Donc ça vient.
On a quelques grands spécialistes en France, entre autres sur les Juifs du monde arabe. On a par exemple Paul Fenton, par exemple, à l'Université de Paris 4. Entre autres, hein, c'est pas le seul.
Première question, on va reprendre plus ou moins l'ordre chronologique, hein, c'est le plus simple. Comment l'arrivée des nazis a-t-elle accueilli par les Juifs d'Orient? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a un danger en Europe? Et comment vont-ils se mobiliser, en fait?
Alors, ce qui est frappant, c'est que d'un bout à l'autre du monde arabe, les Juifs sont parfaitement conscients du danger de l'arrivée des nazis au pouvoir. Danger de conscience, ça ne veut pas dire qu'ils ont conscience qu'une menace génocidaire plane sur les communautés juives. Certainement pas, ce serait faire de l'anachronisme. Mais conscience qu'on a affaire au pire régime antisémite jamais installé en Europe au XXe siècle et même au XIXe siècle, ça oui, ils en ont conscience. Et alors que font-ils? Ils se mobilisent pratiquement partout. Ils se mobilisent, et leur seule façon pour eux de se mobiliser, c'est de provoquer le boycott ou d'appeler au boycott des produits allemands. Bon, c'est ce qu'ils font d'un bout à l'autre du monde arabe, et finalement c'est une mesure qui s'effondre très vite, en moins d'un an, parce qu'ils ont contre l'opinion arabe et les gouvernants arabes, ou en tous les cas les autorités arabes, les gouvernants, on ne peut pas parler de gouvernants au sens propre du terme, sauf au Yémen, mais là il n'y a aucune mobilisation pour d'autres raisons, et en Irak, parce que l'Irak est le seul pays arabe indépendant en 1932. L'Égypte est formellement indépendant depuis 1922. En réalité, les Britanniques tiennent quand même en grande partie la politique égyptienne. Donc, l'Irak est le seul pays réellement indépendant où là, on peut parler de gouvernement légal. Ailleurs, ce sont des autorités en place, le sultan du Maroc, par exemple, des de Tunis, etc.
Bon. Sur qui l'Allemagne fait pression, en fait.
Oui, ils font toujours pression. Et très vite, les mesures de boycott s'avèrent inefficaces. Pourquoi? Parce qu'il y a des rétorsions, à savoir que les Allemands, à leur tour, décident de boycott de produits venus de tel et tel pays du monde arabe. Alors, par exemple, pour l'Égypte, la communauté égyptienne étant l'une des plus actives, des plus dynamiques, des plus entreprenantes, les plus hardies aussi en matière de résistance, Ils boycottent les produits allemands, très bien, mais en retour, l'Allemagne menace de ne plus acheter le coton égyptien. Et ça, le coton étant la ressource numéro un de l'Égypte, il est évident que les Juifs doivent s'incliner, parce qu'ils se mettent à dos ici toute la classe des industriels, les exportateurs de coton égyptien, mais aussi le gouvernement égyptien lui-même. Autrement dit, le risque avec le boycott, c'est de se couper de la masse des concitoyens non-juifs.
D'ailleurs, vous montrez bien que la minorité juive a toujours été une variable d'ajustement des autorités coloniales.
Toujours. Pour avoir la paix.
Coloniale.
Pour avoir la paix et la paix civile. Alors, si prenons l'exemple de la Tunisie ou du Maroc, qui sont des protectorats, pas des colonies au sens propre du terme, quand vous regardez les archives des communautés juives avant 1939 dans ces deux pays-là, vous constatez qu'il y a un climat d'anti-judaïsme diffus dans la population tunisienne, arabe et marocaine. Ce climat d'anti-judaïsme se manifeste par des incidents sporadiques, pratiquement chaque année. Vous n'avez pas une année sans incident. Et ces incidents sporadiques entraînent évidemment des blessés, parfois des morts, un mort ici, un mort là, etc. C'est pas des pogroms au sens européen du terme, sauf cas rarissimes. Mais c'est un climat d'insécurité quasi permanente dans certains endroits et à certains moments. Pas toujours, hein. Mais il y a un climat à fond d'insécurité. Alors comment réagit la justice française face à ce climat de violence sourde? En règle générale, bon, l'enquête est menée et pour éviter les réactions arabes trop violentes au moment du verdict, on conseille aux juges, on conseille aux tribunaux une certaine clémence. Voilà, ça signifie en clair que, non pas par antisémitisme mais par souci de ne pas se mettre la rue arabe à dos, on minimise les persécutions ou les dommages ou les préjudices subis par les juifs. C'est en cela que je dis, mais je l'avais déjà constaté ailleurs dans un précédent travail, que les juifs sont une variable d'ajustement de la paix civile.
Alors justement, quelle a été l'attitude de la rue arabe, si on peut dire? Alors, est-ce qu'il y a eu quand même des manifestations de solidarité?
Non, aucune.
Aucune.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas une manifestation de solidarité, sauf pour ceux qui veulent réécrire l'histoire dans un sens lénifiant. On parlait la semaine dernière de mythes à propos de la Shoah. Ben, il y en a un, ce mythe à propos des juifs du monde arabe, c'est la parfaite entente et la solidarité du monde arabe avec les juifs persécutés. Ça, c'est dans l'imagination. Hein. Dans la réalité, quand vous prenez tous les travaux sérieux, historiques sérieux sur la question, tous vous disent le contraire. Au mieux, il y a de l'indifférence. Voilà. Il n'y a pas de solidarité réelle. Parfois, il y a, c'est très difficile à quantifier, une certaine joie à voir les Juifs rabaissés, privés du décret Crémieux en Algérie, rabaissés par les lois de Vichy au Maroc et en Tunisie, mais de manifestations de solidarité, à part quelques rares édiles ou quelques rares intellectuels qui manifestent leur compassion pour les Juifs et qui le disent, vous ne trouvez rien. On a beau chercher, on ne trouve rien, sur le fond. En particulier au Maghreb.
D'accord, parce que vous écrivez quelque part que pendant le pogrom de 1941 en Irak, justement, certains quand même voisins arabes dans les quartiers où les Juifs...
Ah oui, mais c'est différent. Là, voilà. Vous me parlez des persécutions...
Oui. Face aux persécutions, je pensais aussi...
Voilà. Alors, pour le Farouk de Bagdad, alors là, non, c'est indéniable qu'il y a eu beaucoup de cas de solidarité arabe avec les Juifs, où un grand nombre de gens, de voisins arabes, ont ouvert leur maison pour protéger des Juifs. Ça, c'est indéniable. Absolument indéniable. C'est pour ça qu'on ne peut absolument pas massifier l'attitude des communautés arabes. On ne peut pas dire c'était comme ci ou c'était comme ça, c'est très variable, mais globalement, la tonalité dominante, c'est quand même l'indifférence
c'est ça.
Et même une certaine jubilation intérieure, une certaine joie mauvaise, comme disent les Allemands, vous savez, la Schadenfreude, une joie mauvaise à voir les Juifs rabaissés. Ça n'empêche pas qu'au moment des violences, vous avez de la solidarité de certaines familles qui ouvrent leurs portes, oui. Bien
d'accord.
Sûr. Mais c'est vrai aussi, pas seulement en Irak, c'était vrai en Tunisie, c'est vrai au Maroc aussi, où certains voisins tout à fait compatissants aident.
Alors, vous aviez montré dans un précédent livre qui s'appelait Les Juifs en terre d'Islam.
Juifs en pays arabe.
Juifs en pays arabe. Pays arabe, le rôle justement de l'enseignement du mépris.
Oui.
Puisque vous aviez fait la distinction entre la haine, on va dire génocidaire, cette pulsion de haine qu'il y avait en Europe, et par rapport à.
Mépris,
en terre d'Islam,
oui.
Voilà, c'était le mépris qui dominait.
Tout à fait.
D'une certaine façon, c'est un des ressorts aussi de l'anti-judaïsme musulman. Ne pas supporter que les Juifs soient leurs égaux, voire leurs supérieurs par l'éducation, bien
absolument.
Sûr, j'entends. Par la position sociale.
Tout à fait. C'est exactement ce que j'avais fait dans mon livre « Juifs en pays arabe » en 2012. C'est que j'avais vu au fil des archives du 19e et du 20e siècle que On ne pouvait pas comparer avec l'Europe si on n'est pas dans la civilisation de la haine, parce que simplement sur le plan religieux, c'est pas du tout la même concurrence.
Voilà, on n'est pas dans l'accusation du peuple déicide.
Non, il
n'y
a pas de déicide. C'est pas non plus la religion de substitution, c'est pas ça. L'islam pourrait être la religion d'achèvement des deux autres monothéismes, point. Autrement dit, l'humanité tout entière doit devenir musulmane demain, c'est le but, bien sûr. Mais là, en ce qui concerne les juifs, c'est une économie psychique basée très largement sur le mépris et qui ne peut fonctionner qu'à la condition que le juif reste un être abaissé, inférieur, insoumis, indimi, comme on disait de jadis, si vous voulez. Et quand il échappe à cette condition-là, alors là, effectivement, l'ordre psychique, est complètement bouleversé. Et là, les violences commencent. Alors c'est ce qui va se passer, entre autres, on le retrouve dans les années 30, parce que on a affaire à des juifs de plus en plus émancipés, scolarisés, etc. Et c'est très mal vécu, souvent. Ajouter à cela une concurrence sociale, parce que très bien éduqué, scolarisé, diplômé, ça veut dire aussi ingénieur, médecin, professeur, avocat, etc. Et là, il y a une avance de deux générations sur la majorité arabe.
Ce qui explique donc que le numerus clausus qui a pu être mis en place dans certains pays, enfin notamment Tunisie, Algérie aussi, n'est pas suscité de protestation, mais au contraire...
Une forme de
revanche sociale.
Tout à fait.
Puisque là, ce que vous montrez bien dans ce numéro, c'est toutes les différentes formes de persécution, en tout cas dont les Juifs d'Orient ont eu à pâtir, que ce soit, alors évidemment, l'abrogation du décret Crémieux, qui prive les Juifs algériens de la nationalité française et qui est vécu comme un véritable traumatisme. Et là, je trouve que vous le montrez particulièrement bien dans cet ouvrage. Mais c'est aussi l'arianisation, bon, qui n'est pas allée jusqu'à son terme en Algérie, le numerus clausus pour toutes les professions libérales.
Mais même...
Peut-être sorti des écoles aussi.
Oui,
tout à fait. L'exclusion de l'école.
L'exclusion de l'école. Ça, c'est les mesures prises par Vichy. Les majorités arabes n'ont aucun rôle à jouer dans ces mesures-là, bien sûr. Après, la question se pose de savoir si le sultan du Maroc a protégé les juifs, si le dé de Tunis a, oui ou non, protégé les juifs, comment a-t-il réagi, comment les gouverneurs généraux nommés par Paris ont réagi à la politique de Vichy, l'ont-ils appliqué totalement ou pas.
Oui, bon, là, vous montrez qu'il y a des différences quand même. Il y avait des marges de manœuvre quand même.
Oui, des marges de manœuvre. Par exemple, l'amiral Esteva en Tunisie a été infiniment plus humain, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus compatissant vis-à-vis de la minorité juive que le général Noguès au Maroc, par exemple. Mais vous savez, puisque vous parlez de numerus clausus, c'est pas lié seulement au Maghreb. Le numerus clausus a été déjà instauré en Irak, pays indépendant depuis 1932, bien avant 1939, pour les étudiants en pharmacie, les étudiants en médecine, les étudiants en école d'ingénieurs, par exemple. Numerus clausus très fort, pour une raison simple, c'est qu'on ne voulait pas de la concurrence juive pour ces futures classes moyennes diplômées, c'est tout. Mais c'est ce qui va se passer aussi au Maghreb plus tard.
Encore une fois, pour acheter la paix sociale aussi.
Alors pour l'Irak, c'est simplement, il y a tout simplement la rivalité entre une classe moyenne arabe montante et une classe moyenne juive qui est beaucoup plus éduquée et qui simplement on veut prendre les places. C'est exactement ce qui s'est passé dans le phénomène d'antisémitisme allemand.
Pour le coup,
vous avez des corporations d'étudiants qui sont profondément nazifiées. Et l'une des raisons de leur antisémitisme violent, c'est la concurrence sociale. Les juifs sont parmi les minorités les plus éduquées. Et ça joue profondément dans la concurrence sociale, donc dans l'antisémitisme.
Il y a des places à prendre.
Il y a des places, voilà.
Des biens à récupérer. Alors, un point sur le statut des Juifs, parce que là aussi, Norman Stillman, justement, lui dit très bien dans son article, qui s'appelle « Les Juifs du Maghreb confrontés à la Shoah ».
C'est l'article d'ouverture, oui.
Tout à fait. Donc, il y a une synthèse historique sur ce sujet. Il dit « En Afrique du Nord, la nouvelle loi et la législation qu'elle entraîna furent rigoureusement appliquées. » Donc, il parle du statut des Juifs. Alors ça, on n'a pas forcément justement conscience. Ça fait partie aussi un peu des mythes comme quoi bon, c'était moins rigoureux là-bas, que le moufti... Le sultan a fait écran, etc. Non, alors il dit, lui, c'est pas du tout le cas. Ça a été rigoureusement appliqué. Et même parfois, en Algérie, on a même devancé, on a même anticipé la mise en œuvre du statut.
Oui,
ça s'est fait avant.
En Algérie, ça s'explique aussi parce qu'on a une majorité française
qui
est violemment antisémite. très violemment antisémite, et depuis longtemps, depuis l'affaire Dreyfus l'a bien montré, les seuls députés anti-juifs élus sur un programme anti-juif au moment de l'affaire Dreyfus, c'était les députés d'Algérie, les quatre, dont Drumont. Drumont, qui n'avait rien à voir avec l'Algérie, s'est fait élire député d'Alger.
Bon. L'administration coloniale, de façon générale, hein, et
elle
les
est
pieds
plus
noirs
ou moins.
Quand même...
Alors, les pieds noirs, c'est une chose, sont profondément gangrenés par l'antisémitisme. Ajouter une extrême droite qui est très présente, française, qui est très présente dans les trois pays du Maghreb, le PPF de Doru en particulier, et puis une administration coloniale qui est gangrenée par l'antisémitisme. Mais à des degrés divers, on ne peut pas dire totalement gangrené non plus. Vous avez des hauts fonctionnaires français, j'en ai trouvé un aux archives quand je préparais mon livre « Juifs en pays arabes », qui était remarquable d'empathie et d'une intelligence extraordinaire pour comprendre le sionisme au Maroc en 1946. Je n'avais pas trouvé beaucoup comme ça, mais il y en avait. Mais je reviens d'un mot sur les mesures anti-juives. Stillman a bien raison de démonter les mythes. Enfin, mais en matière de mythes, malheureusement, là, il y a lieu d'être pessimiste parce qu'on a beau faire, les croyances sont plus fortes, hein, elles l'emportent toujours sur les faits. Le sultan n'a absolument pas protégé les juifs. Ça fait partie des reconstructions historiques, ça. Le sultan a appliqué à la lettre les mesures de Vichy et même il est allé au-delà parfois.
Alors comment vous expliquez justement cette bonne image dont il a toujours joui auprès de la communauté?
Alors parce que pour deux raisons. Pour deux raisons. La première est une raison d'habileté tactique. Le sultan est un homme habile, intelligent et qui a compris qu'avec les juifs il avait une carte en main pour bénéficier de l'alliance américaine demain, pouvant amener son pays à l'indépendance. Il l'a très vite compris. En 1900, janvier 1943, a lieu la conférence d'Anfa Casablanca, où Roosevelt est présent. Il a des conversations avec le sultan. Le sultan comprend très vite que Roosevelt soutiendra l'indépendance du Maroc. Et c'est ce que cherche le sultan, l'indépendance pour son pays. Il est convaincu, comme une bonne partie d'ailleurs du monde de l'époque, et en particulier du monde antisémite, qu'aux États-Unis, ce sont les juifs qui dominent, le lobby juif. Et donc, par conséquent, pour avoir l'oreille des Américains, il faut avoir l'oreille des juifs. D'où le rapprochement avec la communauté juive marocaine à partir de la fin 42, début 43, où il va manifester de plus en plus de signes d'amitié. Mais avant le débarquement du 8 novembre 1942, à une seule reprise, il reçoit les représentants de la communauté juive, mais à aucun moment, il n'adoucit les mesures de Vichy. Et je le dis, je le répète, il va même au-delà dans certains cas. Donc, il a besoin de l'alliance américaine et par conséquent, et il sait que la communauté juive américaine est très vigilante sur l'avenir des juifs du Maroc. Et elle le sera encore plus en 44 parce qu'avec le judaïsme ashkénaze détruit en Europe, il y a tout un mouvement chassidique qui est très important aux États-Unis qui va investir sur le judaïsme marocain, entre autres le mouvement Lubavitch. Donc les États-Unis, le judaïsme américain est très conscient de ce qui se passe au Maroc. Donc bref, il va jouer la carte américaine.
D'accord, par intérêt bien compris.
Oui, voilà, tout simplement.
Alors justement, venons.
Alors ensuite, excuse-moi, je termine. Oui. Et puis la deuxième raison fondamentale, c'est que c'est une partie des juifs marocains eux-mêmes qui ont bâti le mythe. Ils ont bâti le mythe pourquoi ? Ces juifs marocains, d'abord, vous avez toute une bourgeoisie juive marocaine qui n'est jamais allée en Israël et qui a bâti ce mythe parce que celle-là vivait une vie privilégiée qui n'affrontait pas l'antisémitisme arabe du populaire. Celle-là fréquentait la bourgeoisie marocaine où dans l'ensemble les relations étaient cordiales et correctes. Le petit peuple, elle connaissait pas. Et le petit peuple, lui, qui est allé en Israël, a fini par idéaliser ce passé-là. Il l'a idéalisé parce que l'accueil en Israël a été désastreux.
Puis c'était aussi peut-être la condition pour pouvoir rester après-guerre. De faire croire à finalement tout s'était bien passé pendant la guerre, qu'ils avaient été protégés, etc.
Oui, aussi, c'est un mythe qui a pu servir aussi à ça. Mais enfin, on ne peut pas, perdre de vue ce mécanisme simple, à savoir qu'une communauté qui est transplantée en Israël et qui est relativement jeune, elle va idéaliser cette vie au Maroc parce qu'elle est mal reçue d'une part et parce que d'autre part, cette vie au Maroc, c'est sa jeunesse.
Bien sûr, bien sûr, il y a une forme de nostalgie qu'on comprend bien.
Voilà.
Alors, justement, je voulais qu'on en vienne au dénouement, on va dire. Alors, vous montrez bien que la guerre a pris fin en mai 43, en fait, hein,
en
Tunisie, avec la libération de Tunis. Le débarquement donc, a eu lieu le 8 novembre 42. Alors, Norman Stillman dit « La libération fut une expérience complexe et aigre-douce qui renforça l'identité juive. »
Oui.
Et là, je trouve que c'est très intéressant pour ce numéro est très intéressant parce qu'il nous permet vraiment de comprendre le lien avec le sionisme, finalement, l'exode, l'exode, il prend racine à ce moment-là, pendant la guerre, finalement.
Absolument. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que 43, 44, 45 seraient des années heureuses pour ces juifs de l'Orient arabe en général. Alors, ce sont des années d'amertume. C'est une année 1945 plutôt sombre, qui pour tous les juifs de l'Orient arabe, tous sont désillusionnés. Et de cette désillusion-là, le sionisme va aussi se renforcer. C'est indéniable. Si vous prenez les juifs du Maghreb, la désillusion, c'est, eh bien, voilà, 70 ans de citoyenneté française avec Crémieux sont rayés d'un trait de plume. Ce sont les lois de Vichy, du Maroc et de la Tunisie. Et pour des gens, cette petite bourgeoisie intellectuelle juive, tunisienne ou marocaine, etc., prenons
qui
tunisienne.
Qui idéalisait la France.
Qui idéalisait la France. La France, c'était les Lumières, la Révolution, c'est Albert Mémy.
C'est une déception terrible.
Tout d'un coup, la déception est totale.
Et d'autant plus que vous montrez que les mesures continuent, enfin, tardent à être.
Oui, elles tardent à être tout simplement
abrogées.
Parce que ça répond profondément à tout un colonna français qui est très antisémite. Mmh. Il a fallu quand même 11 mois pour établir le décret Crémieux en Algérie, alors que depuis 8 novembre 1942, les Alliés étaient là, 11 mois. Et même Giraud l'a abrogé une deuxième fois.
À Casablanca, il y a même des représailles contre les Juifs qui participent à des manifestations de soutien aux soldats américains.
De joie, en novembre 1942, mais les Juifs, certains Juifs se font tabasser et par des policiers français et par des Arabes.
Il y a le cas aussi de la résistance juive dans l'opération Torche. Là, le groupe, donc l'opération Torche, c'est le débarquement
en Algérie. Oui.
Le groupe Aboulker, oui. Qui est complètement, dont l'héroïsme, enfin le rôle de premier plan, est complètement passé.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, sans trop me tromper sur les chiffres, je crois qu'il y a environ 380 résistants qui aident les troupes alliées à débarquer à Alger. Sur les 380, il y a 350 juifs. Voilà, c'est ça, la représentativité. C'est énorme. Bien sûr. Et puis vous avez la désillusion de, mais tout simplement le fait que qu'en Égypte, en Syrie, en Irak, etc. En Irak, il y a le traumatisme du Farhoud et partout, on a vu des populations arabes, surtout en Syrie, en Irak, fondamentalement pro-nazis. Il y a eu une popularité du régime nazi qui va bien au-delà du Mufti de Jérusalem. Et ça, les Juifs ne sont pas prêts de l'oublier.
Vous écrivez que 1945 ne sonne nulle part comme un déferlement de joie pour toutes ces communautés. Tout au contraire, c'est comme si dans toute sa crudité éclatait au grand jour leur solitude et leur angoisse quant à la question de leur avenir sur leur terre natale.
C'est tout à fait ça.
Et donc, pour la première fois finalement, en fait, dans leur histoire, oui, que se pose de façon aussi brûlante cette question.
C'est vraiment entre 1939 et 1945, en passant par le Farhoud de Bagdad, que la déchirure s'est faite, oui.
Le résultat, c'est que sur les, bon, vous avez dit à peu près sur les 900 000 à 1 million de juifs présents donc, dans les pays d'islam, 20 ans plus tard, il n'en reste plus que 10% de ce total.
10%, oui. Et aujourd'hui, quasiment plus. Aujourd'hui, on dit 5 000, probablement même moins. Quoi. Moins.
Merci Georges Bensoussan.
Merci à vous.
Donc je rappelle que un nouveau numéro de la revue d'histoire de la Shoah est disponible, intitulé « Des Juifs d'Orient face au nazisme et à la Shoah ». C'est une publication du Mémorial de la Shoah. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. Et je voulais, avant de rendre l'antenne, signaler qu'il y aura donc, dimanche prochain au Mémorial de la Shoah une commémoration annuelle de la rafle de Tunis.